Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous avions convenu de continuer ce soir sur le thème du bouddhisme engagé. Pardon? Du bouddhisme engagé. Et nous étions arrêtés. La avant-hier, à la notion d'éducation. Il y aurait beaucoup d'autres aspects encore à développer, mais je sais qu'il y a différentes questions qui sont arrivées, donc je voudrais donner du temps à celle-ci aujourd'hui. Néanmoins, sur l'éducation, il y a là une dimension tout à fait fondamentale de l'engagement dans la transmission de la santé, santé du corps, de la parole et de l'esprit, santé du corps et de l'esprit. Dans la transmission de la santé, qui est la seule véritable transmission dans le dharma, ce qui est transmis est la santé de l'éveil, la santé de la nature de Bouddha, la santé de la santé fondamentale. Donc, et cette transmission de la santé, toute transmission est une éducation. Et il est tout à fait juste d'entendre ici éducation et transmission comme des synonymes. Alors, il ne s'agit pas de transmettre un dogme, il ne s'agit pas de transmettre une foi, il ne s'agit pas de transmettre une croyance, il ne s'agit pas de transmettre des concepts, il s'agit de transmettre une santé, un état de santé, c'est-à-dire un état d'harmonie. Mais cette dimension de transmission et donc d'éducation est peut-être la plus importante dans les œuvres engagées que l'on peut accomplir. Alors, comment faire? Il y aurait certainement une considération importante à conduire. L'ayant fait de notre côté, nous avons, il y a quelques années, fondé les éclaireurs de la nature, ou les mindfulness scouts, qui sont une façon de transmettre à des personnes, à des jeunes, l'expérience de la pleine présence, l'éveil sensoriel. Apprendre en faisant, découvrir une expérience dans l'action et découvrir la nature indépendamment de toute croyance, de tout dogme, découvrir notre nature humaine dans un humanisme fondamental. Agnostique. Et avec cette qualité d'expérience qu'est la pleine présence, c'est-à-dire la présence attentive et la présence ouverte. Ce qui transforme notre vie, ce qui transforme notre relation au monde, ce qui transforme notre expérience du monde. Et je crois que c'est Kundun, le Dalai Lama, qui aurait dit, j'emploie le conditionnel, parce que, mais en tout cas, il aurait pu le dire, et même s'il ne l'avait pas dit, ben je le dis. Que pour transformer le monde, il faudrait que tous les enfants puissent découvrir et vivre cette qualité de pleine présence dans leur plus jeune âge, avant 6 ans. Et s'il y avait cette qualité qui puisse ainsi s'éveiller, une ouverture des sens, une présence sensorielle ouverte et attentive, et que celle-ci continue, cela changerait notre vie, notre relation à la nature, notre relation au monde, et aussi nos habitudes et nos modes de vie, et ce serait aussi la meilleure façon de sauver la planète. Donc, c'est pourquoi vive l'éducation et vive l'écologie. Et l'écologie par l'éducation, et pas seulement le tri des déchets, certes, oui, mais alors aussi par le changement de nos habitudes de consommation et de nos attitudes consuméristes et de notre avidité. J'avais mentionné Aristote, le Bouddha, même combat, et le fait que le problème, la source des problèmes économique, alors financier, économique, écologique et dans l'avidité. Et l'avidité du mental. Le mental veut toujours plus. Le corps a ses limites. Le corps a ses limites. Le mental, nos limites. Et plus il y a de mental, plus il y a d'avidité. Et de, le remède à la dérive mentale, à l'hypermentalisation, est justement dans la pleine présence, dans la présence sensorielle, plutôt que mentale. Donc c'est pourquoi il y a aussi un lien entre cette éducation que j'hésite à dire à la méditation, parce que méditation est un terme connoté, il ne s'agit pas de méditer, il s'agit de, d'une ouverture des sens dans la présence attentive et ouverte. Donc, je vais arrêter ici pour donner du temps aux questions et passer la parole à Isabelle qui les a synthétisés.
Pour synthétiser, en fonction, par rapport à ce que vous aviez dit mardi soir sur notamment les religions, qui sont effectivement l'incarnation incarnée par les êtres humains, donc avec des défauts et des qualités. Les défauts qui sont l'inquisition, toutes les guerres saintes, les exterminations, mais également les qualités d'êtres humains remarquables comme Gandhi, le Dalai Lama, Thich Nhat Hanh, Saint François d'Assise.
Qui ne sont justement pas des religieux, ou leur propre, c'est de ne pas être dans une attitude ou un comportement religieux. Mais je le laisse continuer, oui.
Donc, il y avait deux questions par rapport à ces remarques. L'engagement pour les autres et pour le monde a-t-il la même valeur, quelle que soit la religion qui l'a inspirée ? Et les erreurs et les atrocités commises par certains adeptes minimisent-elles l'engagement au nom de l'amour et de la compassion de leur co-religionnaire ?
Tout ça, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup et ça peut être très polémique. Mais, alors, commençons par dire que la meilleure tradition, est celle qui vous rend meilleur. Donc, toute tradition, toute pratique qui vous rend bon est une bonne pratique et une bonne tradition. Premier point. Deuxième point, il est important de faire un distinguo très clair entre tradition et religion. Les religions sont généralement sont des traditions et souvent dans les religions le traditionnalisme est une forme de conservatisme dans une forme qui correspond au dogme et au credo de la religion en question. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre une religion et une tradition ? Une tradition est une transmission. Une transmission, alors, il peut y avoir toutes sortes de transmissions, mais une tradition de libération, une tradition de libération, de réalisation, n'est pas nécessairement une religion. Et une tradition de libération complète n'est pas une religion au sens habituel, au sens habituel où la religion est l'adhésion à une croyance. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on utilise des tas de détours pour... Mais, moi, j'ai suivi ça pendant des années et des années dans le dialogue interreligieux, interreligious dialogue. J'en ai fait des symposiums et des choses. World Millennium Peace Summit, c'était aux Nations Unies et autres. Mais... Une religion se caractérise par l'adhésion à une croyance. Fût-ce « je crois en Dieu ». Une fois, dans une rencontre comme ça, on parlait justement de ça, et je disais « mais aujourd'hui, là parmi vous, alors, c'était dans un centre catholique. Et qui adhère au credo ? Je crois en Dieu, tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, au Fils unique, notre Sauveur. Après, je ne sais plus. je demandais, dans la salle, silence. Bon. Puis il y avait aussi des intervenants chrétiens qui étaient là, des speakers. Ils stimulaient un petit peu. Puis au bout d'un moment, très embarrassé, il y a une vieille dame qui lève doigt timidement, qui dit peut-être le tout début. Je crois en Dieu. Mais dans le contexte monothéiste des religions du livre, les religions sont l'adhésion à une croyance. Et aussi longtemps que l'on ne se libère pas des croyances, on est dans une forme certaines fois subtile, mais toujours réelle, d'aliénation mentale. Et je mets qui que ce soit au défi de soutenir le contraire, de façon raisonnable. Donc, la libération et une voie de libération, une voie de non-dualité, passe par la libération de la fixation sur les concepts. Et si le propre de sa tradition est d'être une religion fondée sur la fixation, dans la fixation à un énoncé littéral comme un credo, on n'est pas dans une tradition de libération. Et alors, ce qui ne veut pas dire que des religions, avec leurs croyances, ne puissent pas avoir de bons résultats. Et la croyance, et même d'une façon populaire et facile, la meilleure façon de faire, si vous voulez obtenir un résultat sur une population et que vous réussissez à inculquer à cette population une croyance qui va dans le sens du résultat attendu, ça peut très bien marcher. Politiquement, ça s'appelle de l'endoctrinement ou de l'intoxication, de l'intox. Mais alors, c'est dire que les croyances peuvent transformer des personnes et donner des bons résultats. Dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure, et avec des possibles dégâts collatéraux qui ne sont pas du tout négligeables. Et ça peut, par exemple, les 10 commandements, tu ne tueras pas. Alors, ça peut être bien, et si on croit en Dieu et qu'on suit son commandement, mais aussi comme dégât collatéral, il y a souvent que tu ne tueras pas ceux de ta tribu. Ah, tu ne tueras pas ceux de ton clan. Tu ne tueras pas ceux de ta religion. Tu ne tueras pas ceux du peuple élu. Les autres, tu peux les tuer. There's no problem. Non, ça n'est pas l'acceptation que font toutes les personnes, mais elle est là. Et plutôt que d'avoir une croyance et un credo, mieux vaut, et de beaucoup, avoir une attitude de santé qui est fondée sur la non-violence, qui est fondée sur l'empathie, c'est-à-dire le véritable amour, pas l'amour qui croit, l'amour d'empathie, le véritable amour, qui est dans sa nature non-violent, ne faisant pas à l'autre ce qu'il ne voudrait pas qu'il lui soit fait à lui. Donc, voilà quelques éléments de réponse. Il y avait aussi, est-ce que les méfaits d'une minorité disqualifie les bienfaits de la majorité ou de certains éléments. La réponse facile et évidente, d'abord, c'est qu'il y a des il y a des mauvais partout, en bref. Dans toutes les traditions, dans toutes les religions, dans tous les groupes humains, il y a des mauvais. Il y a des mauvais qui font des trucs qui ne sont pas, qui font des coups pendables et qui n'agissent pas même en conformité avec les préceptes de leur ou les ordonnances, les prescriptions de leur tradition. Alors après, bien sûr, il y a toute une question sur l'interprétation. L'interprétation. Alors, quand on est dans l'interprétation d'un texte, on peut faire beaucoup de choses. Et il peut y avoir des interprétations contradictoires, comme justement, par exemple, tu ne tueras pas, savoir si, ça n'est, si c'est ne pas tuer ceux du peuple élu, ou si c'est ne pas tuer tout court. Il y a des interprétations qui varient. Si l'on n'est pas dans l'interprétation, mais dans l'empathie et la non-violence, il n'y a pas d'ambiguïté. Et il n'y a pas de justification mentale à quelque chose qui est violent. Et c'est ça le problème de la croyance. C'est qu'elle devient une justification mentale à des comportements violents. C'est comme ça qu'il y a des gens aujourd'hui qui se font sauter, qui deviennent des bombes. Ils croient que c'est bon, on leur a expliqué, voilà, Dieu, t'es un brave, t'es un vaillant, tu vas te sacrifier pour Dieu, et Dieu vaincra. C'est juste un mauvais moment à passer, et en plus c'est rapide, l'explosion, et tu te retrouves direct au paradis. D'ailleurs, ne te fais pas sauter les roupettes, parce que il y a toutes les Valkyries qui t'attendent. Alors, mais c'est vrai. Donc, il y a des problèmes qui sont dans la structure même des religions. Et qui peuvent produire des bons effets. Alors, ce n'est pas les problèmes, mais des religions peuvent avoir de très bons résultats, mais ont structurellement des problèmes qui ont tendance à faire des dégâts collatéraux. Donc, je comprends les gens, et j'en ai entendu beaucoup, qui disent... Et c'est une maxime qui m'a frappé. The world is fed up with religions when it starves for spirituality. Ce qui veut dire, le monde en a marre des religions, mais il est affamé de spiritualité. Et il est juste, et je dirais dans une certaine mesure, de mon point de vue, aussi bon, d'être affamé de spiritualité et d'en avoir marre des comportements religieux, de l'obscurantisme qui vient de l'adhésion à des croyances plus ou moins mal comprises. Voilà.
Il y a une autre question. Il y a des religieux qui choisissent de s'isoler et de pratiquer en étant cloîtrés, ou des grands maîtres également qui se retirent plusieurs années pour développer leur spiritualité, et d'autres personnes, au contraire, qui préfèrent agir dans l'action, qui est visible. Donc, quelle est la relation entre ces deux voies choisies ?
Les deux sont très bonnes. Et ne sont pas contradictoires. Une tendance serait de les opposer. Le contemplatif qui s'isole et qui médite dans une grotte solitaire, comme Milarepa ou comme beaucoup d'autres, dans plein de religions, dans plein de traditions, ce contemplatif, alors, tout dégagé du monde qui soit, est profondément engagé dans une quête d'éveil, de libération, qu'il accomplit pour le bien de tous. Ce n'est pas du développement personnel, du développement individuel, du nombrilisme pour une auto-amélioration égotique. C'est, avec bodhicitta, avec empathie, de s'éveiller, se réaliser pour le bien de tous les vivants. Et beaucoup de grands maîtres, grands saints ont vécu de nombreuses années en retraite, de façon érémitique, certaines fois en réclusion, dans la solitude. Et certains, toute leur vie, le Thubten Rinpoché, qui fut mon maître de retraite quand je fis une retraite de 3 ans, et Thubten Rinpoché continue à être en retraite. Ça fait, je ne sais plus, mais il a été pendant, je ne sais pas si ça doit faire 30 ans, mais Vajradhara Chalo Rinpoché a passé une douzaine d'années en retraite, de grand maître, comme dit Dothen Tsé Rinpoché, pareillement, et dans l'isolement, la retraite est une période de mûrissement, de libération, d'accomplissement. Et pour être un bon médecin, et pour bien soigner, pardon, il est nécessaire d'être un bon médecin et donc de bien faire sa médecine. Donc, pour pouvoir bien aider, bien transmettre, il est nécessaire et important d'avoir une maturité intérieure, une expérience profonde qui se cultive, qui se développe dans l'entraînement que font ceux qui vivent en solitaire, en retraite, les yogis. Et c'est pour ça qu'ici même nous avons la tradition d'une retraite de 3 ans. Donc, la voie érémitique est excellente et il y a une action aussi d'influence, une action d'inspiration qui est extrêmement puissante. On peut ne rien faire d'un point de vue physique, mais en même temps mouvoir des foules. Mahatma Gandhi se mettait à jeûner. Alors, restait tranquille dans un endroit isolé, il ne parlait pas, hein, il jeûnait en méditation. C'est comme ça qu'il a libéré l'Inde de l'Empire anglais. Donc là, c'est un exemple à cheval, c'est pas. Mais c'est dire qu'il y a des actions en fait des immobilités qui peuvent mobiliser énormément. Et il est intéressant de voir aussi que les personnes qui ont été ainsi longtemps en retraite, en retrait, et qui ont ainsi mûri, sont des personnes qui sont susceptibles ensuite de déployer une immense activité. Alors, exemple, Vajradhara Kalu Rinpoche, exemple, Dilu Kense Rinpoche, exemple, beaucoup d'autres. Et dans d'autres traditions aussi, certains, même grands mystiques chrétiens, ont été connus pour avoir eu ensuite une action, un charisme et une activité dans le monde absolument énorme. Sainte Thérèse d'Avila a été un exemple très frappant. Donc, je rajouterais qu'il est important de ne pas s'engager avant d'être mûr. Il est important de faire attention à ne pas devenir militant. Le militantisme. Le militantisme prosélyte est quelque chose d'assez pernicieux. Et souvent, lorsque l'on s'engage, on est dans le bien-faire, dans la bonne volonté, et on peut se mettre à croire bien faire d'une façon quelque peu agressive. Donc, le militantisme est souvent trop dogmatique et agressif. En tout cas, dans un engagement au sens d'un bouddhiste engagé, c'est un engagement dans la non-violence, ahimsa, et dans la non-violence du corps, dans la non-violence de la parole, dans la non-violence de l'esprit, c'est-à-dire dans la non-violence conceptuelle. La non-violence conceptuelle, c'est la relativité des concepts et leur effacement dans l'état inconceptuel, qui est l'ultime état de non-violence. Je vous repasse la parole parce que si je parle trop longtemps...
Il y a une question qui est liée à ce que vous venez de dire, donc ça tombe très bien. Des laïcs convaincus qui travaillent pour changer le monde avec des chercheurs spirituels, et justement les uns pensent que le changement vient de l'intérieur, les autres pensent que le changement viendra de l'extérieur, et lorsque ces personnes travaillent ensemble, quelquefois il y a des incompréhensions, des non-dits qui provoquent des obstacles pour évoluer. Donc comment faire dans ce cadre de travail?
Là, c'est vrai qu'un bouddhiste engagé est un révolutionnaire. N'ayons pas peur du mot. Révolutionnaire. Si on est tiède, on peut juste mettre le R entre parenthèses. Et à ce moment-là, c'est l'évolution. Mais il y a la révolution extérieure et la révolution intérieure. La révolution extérieure, euh, pose des problèmes. Exemple, dans du siècle dernier, les deux plus célèbres, la révolution nazie et la révolution communiste. Hitler et Staline ont rivalisé dans le nombre de morts qu'ils ont provoqués. Vouloir changer le monde extérieur, même de quelque façon que ce soit, sans transformer celui qui produit le monde extérieur, l'esprit qui produit le monde extérieur, est complètement vain. Si vous essayez de changer les choses extérieurement, et il s'agit ici de choses sociales, de changer la société, changer l'économie, et son impact, l'impact de la société et de son économie sur l'environnement. Vouloir changer la société, changer les personnes qui constituent la société, ça ne peut pas se faire. Vous pouvez, bien sûr, on peut mettre des lois, on peut faire des contraintes, on peut faire de la répression, mais la répression refoule et amène le retour du refoulé. Si vous voulez avoir une bonne guerre civile, il n'y a qu'à commencer à bien réprimer. La révolution extérieure, violente, avec dictature, que ce soit la dictature du prolétariat ou que ce soit la dictature de Dieu, ce n'est pas un bon plan et ça provoque violence et tuerie. La révolution intérieure ou la révolution de non-violence, le Mahatma Gandhi que je citais hier, je crois déjà, soit le changement que tu voudrais voir advenir. Si tu souhaites voir advenir dans le monde la paix, la justice, l'égalité, soit ce changement, agis avec bonté, agis dans l'égalité, tu comprends l'autre comme un autre soi-même, pratique cette règle d'or de non-violence, et sois ainsi et de bien des façons, toi, le changement que tu voudrais voir advenir. Commence par toi. Commence par toi. Il est clair que si chacun commençait par soi, ben ce serait accompli. Mais alors, ça n'est pas pour dire qu'il ne faille pas aussi agir extérieurement, mais savoir agir extérieurement d'une façon non violente, en commençant par soi et dans une approche globale qui est plus celle de l'éducation et par là même du terrain que une médecine symptomatique qui va essayer de traiter les dérèglements extérieurs, les symptômes de la maladie. Est-ce que ça répond à votre question ?
Le problème était comment agir avec des personnes qui estiment que on ne doit viser que les changements extérieurs, et alors qu'on voit qu'il faut justement commencer par les changements intérieurs et qu'on se retrouve ensemble pour œuvrer, pour s'engager.
Bien, si l'on est cohérent avec déjà d'être dans, on peut être dans l'expression de son attitude, j'entends par là expliquer ce qui nous semble être la position juste, comme je viens de le faire par exemple, et commencer par soi et en être l'exemple. Et donc la communication à ce moment-là, merci beaucoup, et non pas tant dans le discours et dans même une propagande que dans l'exemplarité. Si on reprend, n'exclut pas forcément l'autre, hein, mais il faut d'abord être cohérent, être dans la cohérence et être l'exemple de ce que l'on voudrait voir advenir, et en être l'exemple vivant et l'appliquer. Et ensuite, il devient possible de l'exprimer et que l'exemple et son expression soient contagieux. Et puis s'il y a d'autres personnes qui font autrement, on n'est pas obligé d'aller avec ces personnes-là. Hein. Et il y en a suffisamment qui sont dans le bon état d'esprit pour se mailler avec elles. Isabelle, c'est Oriane.
Boche, bonsoir. Ce soir, 80 personnes avec nous. Une question de Jinpa, que nous connaissons bien, donc, depuis l'Espagne, qui vous demande « Bonsoir, Rinpoche. Hier, à la télévision espagnole, lors des actualités, un imam disait « Les femmes qui se parfument sont des provocatrices et des fornicatrices, car elles se parfument et lorsqu'elles sortent et se promènent, elles donnent des mauvaises idées aux hommes. » En dehors des propos outranciers de cet imam, qui pourrait corroborer vos propos sur les ordonnances parfois dommageables, que pensez-vous des médias qui transmettent ce genre de propos ?
Ben alors, les médias, elles transmettent ce que les personnes ont envie d'entendre. C'est comme ça qu'elles construisent leur audimat. Et c'est peut-être malheureux, mais c'est la loi de la consommation, de l'audimat. Maintenant, cet imam, qu'est-ce qu'il a dit, cet imam ? Il a dit que les femmes qui se mettaient du parfum...
Les femmes qui se parfument sont des provocatrices et des fornicatrices, car elles se parfument et lorsqu'elles sortent et se promènent...
Provocatrices... mais si, pourquoi on se parfume ? Qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme, hein, il y a des hommes qui se parfument aussi. Donc mon propos n'est pas particulièrement sexiste. Mais pourquoi se parfume-t-on ? Hein ? Alors, c'est pas uniquement pour ne pas sentir mauvais, non, parce qu'il y a du désodorant. Il y a du désodorant. Et souvent, il suffit de se laver pour ne pas sentir mauvais. Hein? Mais donc, au-delà du lavage, au-delà du désodorant, il y a dans le parfum, et c'est bien connu, quelque chose de très sensuel. Le parfum est parfum capiteux, sont des parfums enivrants, envoûtants. Vous êtes pris dans le charme du parfum et qui vous enivre. Et c'est comme cela que des femmes enivrent des hommes. Et peut-être que des hommes enivrent aussi des femmes. Mais le bon usage du parfum est dans l'art de la séduction un ingrédient très ancien, traditionnel et bien connu. Donc, que les femmes qui se parfument le fassent d'une façon consciente ou inconsciente dans un désir de plaire. Et le désir de plaire, c'est un désir de séduction. De séduction. Hein? Donc, jusque-là, moi, je ne lui donnerais pas tort à l'imam. que les femmes et que les hommes... J'irai plus loin. Si on se parfume, si on se rase, si on s'épile, si on se maquille, si on soigne son look, si on a le culte de la jeunesse pour bien paraître, il ne faut pas se voiler la face. Et il y a quelque chose qui est de l'ordre de la séduction. Absolument, me dit-on. Et on fait attention à avoir une bonne image pour, alors, ou simplement bien présenter et plaire, mais entre plaire et séduire, la frontière est très fine, c'est juste là où on met le curseur. Donc, après, d'aller jusqu'à... Dites-nous... Alors, protestez, c'est bien. Donnez le micro, s'il vous plaît.
Au niveau du parfum, c'est vrai qu'il peut y avoir l'envie de séduire, de plaire. Mais je pense que bien des hommes n'ont pas besoin que les femmes se parfument pour leur faire la cour, et, ni pour être d'ailleurs plaisantes. Les femmes ne sont pas obligées de se parfumer pour être plaisantes de toute manière.
Tout à fait.
Mais je veux dire, le désir des hommes est des fois là, même si la femme n'est pas parfumée. Donc il n'y a pas besoin de parfum spécialement pour leur donner de mauvaises idées, entre guillemets.
Tout à fait, non mais...
Et de là à accuser qu'elle soit forno... Je m'excuse, j'arrive plus à dire le mot.
Fornicatrice, mais je suis pas encore arrivée jusqu'à
oui,
ce...
Oui, enfin bref. Je pense que là, c'est franchement outrancier et vraiment déshonorant pour la majorité
des femmes. Oui, mais je traite le sujet avec un peu d'humour. Et que les... Pour dire les choses de façon simple, que le désir sexuel entre un homme et une femme et un homme, n'ait pas besoin d'être aiguisé par un parfum artificiel, c'est sûr. Et que le parfum même naturel soit un parfum extrêmement puissant, c'est sûr. Le bon roi Henri, quand il rentrait de campagne, il envoyait un message « Mamie de grâce, ne vous lavez pas ». C'est un petit côté faisandé. Donc, mais il y a quelque chose de cru et brut et de naturel, et effectivement... sans parfum artificiel. Donc je suis entièrement d'accord avec vous. Alors, pour terminer, après c'est vrai que la déduction de l'imam est maladroite. quand il dit « Donne, ce sont des fornicatrices ». C'est très sexiste et très maladroit. Mais outrancier, tout ce que vous voulez, ça n'est pas politiquement correct. Tous les séducteurs et toutes les séductrices sont grossièrement ou subtilement. Alors, qu'entend-on par fornicateur? Mais si on entend des personnes qui ont une pulsion pour l'acte sexuel, il est clair que la base de la séduction est à visée sexuelle. Chez les mammifères, c'est complètement évident. Alors, chez les humains, on va dire attention. Mais nous sommes des mammifères. Alors, des mammifères mentaux, des animaux sociaux, etc., certes, mais ça n'enlève pas le côté naturel qui est le nôtre en tant que mammifère aussi. Voilà, donc il n'a pas bien parlé, cet imam, c'est pas bon, c'est très mauvais, et les médias qui ont, se sont fait écho de ça le font simplement pour cultiver un audimat consumériste, ce sont des méchants médias au service du vampire impérialiste. Dune verni ainsi m'indigne, naissant une nombre d'embréation, dénier au bien de tous les vies, en la réalité, m'absolue. Sauve Mangalam, bonsoir.